L'affrontement entre la Grèce et Israël, qui remonte à l'époque de Hanouka, cette grande lutte qui a opposé nos ancêtres aux tentatives d'hellénisation du judaïsme, n'est pas du tout une chose évidente. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire la Grèce, c'est les ténèbres, Israël, c'est la lumière, donc il y a une fête des lumières pour commémorer la victoire de la lumière contre l'obscurité. Effectivement, nous avons des midrashim qui identifient le mot rocher, obscurité, lors de la création du monde, à l'Empire grec. Et c'est extrêmement surprenant, étant donné que si on fait objectivement le bilan de ce que les Grecs ont amené dans l'histoire, ils ont amené énormément de lumière. La philosophie, l'esthétique, le régime démocratique, des technologies, la science. Tout cela revient de droit au mérite de l'hellénisme. Donc pourquoi être tellement acharné contre la culture grecque? De plus, il faut rappeler une chose très importante, c'est que les premiers contacts qu'ont eus les Grecs avec des Juifs dans l'Antiquité ont été tout à fait un émerveillement. Un des témoignages les plus anciens et les plus, disons, assurés sur le plan historique que nous avons, c'est une rencontre entre Aristote, le grand philosophe, et un sage juif du nom de Simon, probablement donc Shimon HaTzadik, qui est un contemporain d'Aristote et d'Alexandre le Grand. Cette rencontre est relatée par Cléarque, qui était l'élève d'Aristote. Ce qu'il dit est assez surprenant. Il dit que Aristote était très impressionné par la rencontre avec ce juif, qui était tellement sage et tellement versé dans la sagesse qu'on aurait pu le croire grec. Ah, c'est là que ça commence déjà à faire un hic. Ça voudrait dire que les Grecs jugent de la valeur d'une civilisation dans la mesure où elle ressemble, ou elle, disons, est peut-être calquée même sur leur civilisation. De ce point de vue-là, il y a déjà un problème. Il y aurait donc une négation de l'originalité, de la particularité du message d'Israël, et finalement, ça continue par un épisode qui, a priori, est positif, mais que nous savons être négatif. Il s'agit de la traduction en grec de la Torah, la traduction des Septante, réalisée au temps de Ptolémée II à Alexandrie, avec la collaboration de 70 sages d'Israël qui sont invités à traduire la Torah en langue grecque. Il faut bien comprendre que pour les Grecs, traduire la Torah, c'était lui donner une place d'honneur dans la bibliothèque d'Alexandrie, à côté des grandes œuvres de Platon, d'Aristote. C'est-à-dire, c'était une manière de sauver la sagesse des Juifs de l'oubli. On pourrait dire d'une certaine manière qu'ils étaient très reconnaissants au peuple juif d'avoir conservé pendant si longtemps une œuvre aussi importante que celle du législateur Moïse, et que finalement, enfin, ça va participer de la culture universelle. Et c'est là qu'on commence à comprendre le problème. C'est qu'en fait, la Torah n'est pas une sagesse. La Torah est une parole. La parole du Créateur adressée à une identité particulière dans sa création, l'identité d'Israël. Donc ça ne peut pas être réduit, ça ne peut pas être transformé en un contenu exclusivement de sagesse, qui par définition serait donc cosmopolite et qui n'aurait donc rien à voir forcément avec le peuple juif. Nous, les enfants d'Israël, nous savons que c'est une parole qui nous est adressée à nous. Et on peut dire qu'une certaine manière, ce qu'ont voulu les Grecs, c'est s'approprier la Torah et se débarrasser de l'enveloppe nationale, celle des enfants d'Israël. Manitou faisait remarquer que cela correspond tout à fait à la version séfarade du Alanissim, la prière que nous récitons pendant la période de Hanouka, dans laquelle on dit que l'empire des Grecs a voulu les hashkicham mitoratecha, les faire oublier de ta Torah. Ça veut dire quoi, les faire oublier de ta Torah? C'est pas grammaticalement passable. Ça veut dire qu'ils auraient pris la Torah, mais ils auraient effacé Israël de la Torah. C'est-à-dire que le contenu, disons, d'identité particulière à Israël qui est dans la Torah, en fait, est tout à fait secondaire et négligeable. C'est là, donc, que commence véritablement le conflit. On pourrait dire que ce qu'ont fait les Grecs était déjà l'annonce de l'intuition chrétienne. Dans l'intuition chrétienne, eh bien, on adopte la Bible, mais l'alliance avec le peuple d'Israël est rompue. Eh bien, ça a commencé déjà avec l'histoire des Grecs, qui finalement est devenue la persécution séleucide contre les Juifs en Judée. Quel est le sens de cette persécution? Si on voit qu'au départ, les Grecs étaient très positifs envers les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'il y a eu des persécutions, des empêchements d'accomplir la Torah, la profanation du temple de Jérusalem par une statue de Zeus et la présentation d'un porc sur l'autel de Jérusalem? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé tout simplement que les Grecs se sont rendus compte que les Juifs étaient irréductibles à ce schéma d'une sorte de culture cosmopolite et universelle qui engloberait tout et à laquelle les Juifs devraient se plier en tant que cas particulier de la philosophie. C'est comme si le monde entier était grec, mais qu'il y a toutes sortes de Grecs. Il y a des Grecs égyptiens, il y a des Grecs babyloniens, il y a des Grecs juifs, il y a des Grecs grecs. En fait, il y aurait une sorte de supraculture dans laquelle on devrait fondre notre identité. Or, les enfants d'Israël ont très bien compris que ce n'était pas passable. Mais comment est-ce qu'une opinion de ce genre, celle des Grecs, a-t-elle été possible? Elle a été possible à un temps où a cessé la révélation. C'est-à-dire à partir du moment où les prophètes se taisent, alors qu'est-ce que c'est que la Torah? Eh bien, la Torah devient une sagesse, une philosophie, une législation, comme les autres peut-être. Tandis qu'au temps des prophètes, ce genre d'approche était absolument impossible. On savait très bien avec qui Dieu parlait. Là se pose un gros problème. Il y a eu un engagement militaire entre la famille des Asmonéens, les Maccabées, qui ont lutté contre les Grecs. Et finalement, c'est nous qui avons eu la victoire. Mais le fait d'avoir eu la victoire ne prouve rien. Peut-être que le fait d'avoir eu la victoire n'est qu'un hasard, un hasard de la politique, un hasard de la puissance militaire, une conjonction de hasards, des heureux combats, mais qui nous dit qu'en fait le schéma de la culture grecque est faux. Eh bien, il a fallu pour cela, dans un temps où les prophètes ne parlent pas, un temps où la présence divine n'est pas ressentie, ce qu'on appelle le départ de la Shekhina, eh bien il a fallu qu'il y ait eu un miracle. C'est-à-dire, le miracle de la fiole d'huile dont on parle souvent à propos de Hanouka est assez surprenant. À quoi sert-il ce miracle? Ce miracle qui concerne finalement un des objets du temple dans l'intérieur du temple de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est par rapport à la libération nationale de l'époque? Mais en fait, il a fallu qu'il y ait une sorte de clin d'œil. C'est-à-dire, le créateur du monde nous a fait comprendre par le miracle de la fiole qui a brûlé pendant 8 jours alors que l'huile ne pouvait suffire que pour un jour. C'est ça qui nous a indiqué qu'il y avait ici encore un effet de la présence divine dans le peuple d'Israël, même après la révélation. D'où l'importance de l'allumage des lumières de Hanouka. Mais ne nous trompons pas, l'essentiel c'est que nous célébrons la libération nationale. Ça se fait par la récitation de la prière du Hallel. Le Hallel qui est récité tous les matins de Hanouka, c'est ça le commandement principal. Le fait d'allumer les lumières en souvenir du miracle de la fiole, bien que très important au niveau folklorique et éducatif, finalement n'est que secondaire. C'est ça dont il est question à Hanouka. Rappelons-nous aussi une chose qui est troublante et qui peut être d'actualité. Dans le livre des Maccabées, il est raconté comment Yehuda, le Maccabéen, purifie le temple de Jérusalem, renouvelle le culte, il présente les sacrifices sur l'autel. Donc tout cela est très beau. Au même moment se produit le miracle de la menorah, du chandelier à l'intérieur du temple. Tout cela est très beau et très idyllique. Mais on voit dans le texte qu'au même moment où Yehuda présentait ses sacrifices, il demande aux combattants qui l'accompagnent de bien vouloir lancer des flèches en direction de la forteresse de la Chakra à Jérusalem. C'est quoi la forteresse de la Chakra? Eh bien c'était la forteresse dans laquelle il restait encore une force armée, une garnison grecque, qui dominait le temple et qui lançait des pierres pour empêcher la purification du temple. Donc au même moment où se passe le miracle de Hanouka, il y a encore une présence grecque à Jérusalem. Et il faut donc lancer des flèches pour les empêcher de nous empêcher. Ça a tenu combien de temps cette histoire? Ça a tenu pendant 20 ans. C'est-à-dire, ce n'est que lorsque le frère de Yehuda Maccabi, Shimon, a été couronné roi de Judée par l'ensemble des factions du peuple, qu'on a pu se débarrasser de la Chakra, qu'elle a été rasée par Shimon. Ça pose plusieurs problèmes. Tout d'abord, comment se fait-il que la Chakra ait tenu? Une garnison grecque, des soldats avec leurs familles, leurs enfants, tiennent pendant 20 ans. Mais comment sont-ils alimentés? Comment sont-ils ravitaillés? Alors là, nous avons une surprise. Il y avait un accord humanitaire avec Démétrios, le fils d'Antiochus, qui, pour des raisons humanitaires, a demandé qu'on pratique un passage pour permettre de ravitailler la Chakra. Ça a duré pendant 20 ans. Alors, c'est peut-être d'actualité, vous savez, quand on ne sait pas toujours lutter contre ses ennemis jusqu'au bout. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'en fait, le premier des Maccabées à devenir roi de Judée, Shimon, ne l'a été qu'après 20 ans de lutte intérieure au sein du peuple. Ce n'est que lorsqu'il y a unité dans le peuple, accord commun sur le dirigeant, que l'on peut finalement avoir la victoire totale. peut-être y aurait-il un message également pour notre époque. Bonne fête de Hanouka.